Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygène. Apple s'apprêterait à frapper un nouveau gros coup en siphonnant toute la production des puces gravées en 3 nanomètres. C'est un enjeu majeur pour tous les constructeurs, on va revenir là-dessus dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va faire un petit bond vers le passé et même un grand saut, puisqu'on va parler de l'EyeSight avec Pierre. Oui, c'était la webcam dans un tube que pas mal d'utilisateurs aimeraient revoir aujourd'hui dans une version plus musclée. Nous sommes le mercredi 22 février, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Apple ne fait généralement pas de quartier quand il s'agit de son approvisionnement en composants. On connaît l'histoire des tout petits disques durs pour l'iPod mini. Apple s'était arrogé toute la production à l'époque, pendant plusieurs mois, sans que les concurrents puissent s'en procurer. Et cette stratégie d'étouffement devrait se poursuivre avec les futures puces pour les iPhones, celles qui seront gravées en 3 nanomètres. Le stock, qui est actuellement en cours de production chez TSMC, serait entièrement dédié aux besoins d'Apple, ce qui ne laissera même pas des miettes à d'autres clients. Qualcomm et MediaTek, qui sont les prochains sur la liste, devront prendre leur mal en patience, le temps qu'Apple ait fini de siphonner toutes ces puces. Actuellement, les modèles M2 des derniers Mac ont une gravure en 5 nanomètres de deuxième génération, et la puce A16 des iPhone 14 est gravée en 5 nanomètres. Réduire encore la taille de gravure va permettre aux futurs appareils d'Apple d'être plus puissants et plus autonomes, puisqu'on peut caser davantage de transistors dans une même puce. Je vous renvoie vers le sortie de veille du 23 janvier où Anthony avait justement expliqué les enjeux de la finesse de gravure. La fonction Car Key permet à un iPhone ou à une Apple Watch de déverrouiller la portière de sa voiture aussi facilement qu'avec une simple clé classique, mais en version plus moderne. Malheureusement, les constructeurs automobiles qui utilisent cette technologie se comptent sur les doigts d'une main qui aurait 4 doigts. BMW la propose sur certains modèles récents, tout comme Genesis, Hyundai et Kia. Autant dire que les clés de voitures traditionnelles ont encore de beaux jours devant elles. On ne sait pas trop ce qui coince entre Apple et les constructeurs, peut-être que les torts sont partagés d'ailleurs. Toujours est-il qu'Apple a lancé une nouvelle application sur l'App Store qui n'est accessible qu'à partir d'un lien. On ne peut pas la retrouver en utilisant le moteur de recherche de la boutique. Car Keys Test, c'est le nom de l'app, est très spécialisée. Elle permet aux constructeurs automobiles de s'assurer que la clé de voiture virtuelle fonctionne bien avec leur véhicule. Ce n'est donc pas une application grand public, puisqu'il faut de toute façon un compte lié au programme Made for iPhone. On peut espérer que la disponibilité un peu plus large de cette app donnera des idées à de nouveaux constructeurs. À une bonne majorité, vous voulez le retour du MacBook 12 pouces. Bon, pas forcément l'ordinateur de 2015 qui se traînait avec un processeur Intel tout poupou et un clavier papillon de sinistre mémoire. Mais vous aimez manifestement l'idée d'un portable compact et ultra léger, encore plus que le MacBook Air actuel et son écran de 13,3 pouces. Dans un sondage, on vous demandait si vous seriez partant pour qu'Apple ressuscite cette machine et c'est le cas pour 50% d'entre vous. Dans une même proportion de 20% environ, vous pensez soit que ce format de 12 pouces a fait son temps, soit que le nouveau standard pour les MacBooks c'est 13 pouces. Comme on le voit, c'est tout de même relativement partagé entre les partisans du 12 pouces et ceux qui ne veulent plus en entendre parler. Alors maintenant, un sondage, ça fait pas le printemps, et rien ne dit qu'Apple va réellement lancer un successeur au MacBook Retina de 12 pouces. Les rumeurs sont en effet contradictoires sur le sujet, même si Apple a effectivement tout le nécessaire pour faire une petite machine puissante avec une grosse autonomie, le tout dans un poids-plume, et pas trop cher s'il vous plaît. Bien avant FaceTime, bien avant la fonction de continuité caméra de macOS Ventura, bien avant même les webcams installées dans les Mac, Apple a commercialisé l'EyeSight, une webcam tout en aluminium et en longueur. Et on va revenir aujourd'hui avec Pierre sur ce superbe produit, il faut bien dire la vérité. Salut Pierre.
Salut Michael.
L'EyeSight a été lancé durant l'été 2003 et on peut dire qu'à l'époque, cette webcam ne ressemblait vraiment à aucune autre.
Ah non, c'est sûr, en effet. Rien qu'au niveau du design, l'EyeSight, c'est vraiment un beau produit. C'est un tube en aluminium d'un seul tenant, avec plein de trous partout. Ça ressemble un peu à ce qui se faisait sur les PowerBook G4 sortis quelques mois auparavant. Et surtout ce qui est resté la marque de fabrique d'Apple depuis, avec beaucoup d'usage de l'aluminium. L'autre particularité de cette webcam, c'était la présence du FireWire pour transmettre les données vers le Mac, aussi bien que la vidéo, que l'audio et l'énergie. Et c'est une technologie qui était beaucoup plus efficace que l'USB de l'époque.
On aura sûrement l'occasion de revenir sur le FireWire dans un futur sortie de veille, mais cette connectique s'était imposée pour tout ce qui était vidéo notamment.
Ouais, en fait, Apple utilisait depuis 1999 dans le PowerBook G3 et dans les PowerMac G3 et avec l'iMac, qui était un ordinateur qui était conçu pour le montage vidéo avec iMovie.
Alors, revenons sur l'iSight qui était, elle aussi, très liée à un logiciel, en fait.
Ouais, pour pouvoir utiliser l'iSight, il fallait utiliser iChat AV, un logiciel qui était encore en version bêta au lancement de la webcam pour macOS 10 Jaguar. Voilà. Pour ceux qui se souviennent. L'application, en fait, elle a été intégrée avec macOS 10 Panther, qui est sorti en octobre 2003. Et il y avait des choses très amusantes avec iChat et l'intégration de tout ça. C'est que, par exemple, la webcam avait un cache qui permettait de couper l'objectif physiquement, de le bloquer. Et en fait, juste en tournant, on pouvait lancer iChat automatiquement.
Alors déjà, à l'époque, il y avait cette question de la confidentialité, mais d'ailleurs, ça ne s'arrêtait pas là.
Non, parce que, voilà, en plus de la possibilité de fermer l'objectif, il y avait une LED qui s'allumait en vert quand l'iSight était utilisé. Et c'est une idée, d'ailleurs, qui est restée sur, pas mal de, sur l'iPhone et le Mac, qu'on utilise la webcam. Voilà, il y a une petite lampe qui nous prévient que la webcam fonctionne.
Alors, techniquement parlant, qu'est-ce que ça dit, l'iSight ?
On est loin des caméras 4K actuelles, voilà, où on se retrouve avec des modèles qui ont 8 millions de pixels. L'iSight, ça filme en 640 x 480, c'est à peu près 300 000 pixels, ce qu'on appelle du VGA. Bon, les résultats étaient bien pour l'époque, avec 30 images par seconde, une exposition automatique et un autofocus. Donc voilà, c'était assez efficace pour avoir l'honnêteté. Au niveau du son, il y avait un micro avec suppression du bruit qui donnait un résultat plutôt correct. Par contre, voilà, la webcam est assez grosse et ça chauffait beaucoup en fait autour du tube en alu par rapport à tout ce qu'il y avait autour et dedans. Bon, en 2023, il faut quand même le dire, ça n'a pas très bien vieilli. C'est un peu flou parce que la définition est vraiment faible et l'image est quand même même si une exposition automatique, ça a quand même tendance à tirer beaucoup vers le vert, ce qui fait que quand vous regardez quelqu'un avec ça, vous avez l'impression qu'il est malade. Mais pour une caméra qui a 20 ans, c'est pas mal.
Au bout du compte, bah, c'était un périphérique bien pensé et presque abordable pour du Apple.
Ouais, alors, voilà, presque abordable, ça valait quand même 170 euros, hein. C'est le prix, voilà, actuellement pour ce prix-là, on a vraiment une excellente webcam. Par contre, Apple fournissait beaucoup d'accessoires pour que tout le monde puisse utiliser. Donc il y avait plusieurs supports, il y avait le câble FireWire, on pouvait installer ça sur un écran externe, avec un support comme ceux qu'on a actuellement pour éviter qu'elle bascule. On pouvait installer ça sur un iMac ou un iMac, avec des supports pour placer sur les gros écrans cathodiques. Et il y avait même des supports pour les Mac portables, parce qu'à l'époque, les PowerBook n'avaient pas de webcam. Voilà. Et Apple fournissait un tube en plastique pour pouvoir la ranger, la transporter facilement aussi. Donc vraiment, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'était plutôt généreux.
En 2008, Apple arrête la commercialisation de l'iSight, mais la webcam continue de fonctionner, et même jusqu'à très récemment.
Alors oui, Apple a essayé les pilotes jusqu'à macOS Mojave. À partir de Catalina en 2019, il y a des trucs qui n'ont plus fonctionné. Avec Big Sur, ça ne fonctionne plus du tout. Après, il y avait quand même eu le problème, c'est que ça reste une webcam FireWire et ça fait un moment qu'il n'y a plus de connecteurs dans les Mac. Donc, même si vous avez un Mac récent à peu près qui permet de l'utiliser, il fallait surtout commencer à brancher des adaptateurs du Thunderbolt vers FireWire et de la prise FireWire vers la bonne prise pour la caméra. Et ça commençait à faire un peu long et un peu cher.
Apple a commencé à intégrer des webcams directement dans les Mac. D'ailleurs, c'est des caméras qui s'appellent iSight.
En fait, ça a commencé assez rapidement après le lancement de l'iSight externe. Dès 2005, le dernier iMac G5 est équipé d'une webcam directement dans l'écran. Et à partir des premiers MacBook Pro en 2006, il y a eu des webcams aussi directement dans les écrans. Alors, c'était des webcams USB qui suivaient la norme, donc c'est beaucoup plus standard, sans autofocus et avec une qualité qui varie quand même pas mal en fonction des Macs, on le voit encore maintenant. La qualité va vraiment dépendre de l'appareil. Aujourd'hui, le successeur de Lightsight, ça pourrait tout simplement être l'iPhone, parce qu'en fait, on peut utiliser le téléphone comme webcam avec macOS Ventura et la fonction de continuité. Donc c'est beaucoup plus simple. Après, le design est quand même bien marqué. Et là, par exemple, sur mon bureau, j'ai une webcam Dell 4K.
Sacrilège.
En fait, oui, alors, peut-être un sacrilège, mais du coup, mon iPhone ne marche pas avec continuité. Et en fait, la webcam de Dell ressemble très fort avec une Hisense, c'est le même format de tube. Et c'est un peu le même prix aussi, malheureusement.
Eh bien, merci en tout cas de nous avoir rafraîchi la mémoire avec l'Hisense. Salut Pierre.
Salut Michael.
Et quant à nous, ben on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.